marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Et maintenant, avale ta loi!
Le cannabis, prohibition, légalisation.
Un message du gouvernement du Canada. Il sera bientôt légal au Canada pour les adultes de consommer du cannabis. Mais il y a certaines choses que vous devez savoir. Le cannabis ne sera légal que le 17 octobre 2018. C'est votre responsabilité de savoir ce qui sera légal dans votre province ou territoire, y compris l'âge légal. Si vous êtes gelé, ne conduisez pas. Et n'allez pas au travail. Renseignez-vous sur les faits. Visitez la page canada.ca/le-cannabis.
Le but proclamé de Justin Trudeau, le premier ministre canadien, est d'assécher le marché noir et par voie de conséquence la criminalité qui s'organise autour de lui. La méthode choisie est d'encadrer strictement la production et la distribution. Dans chaque État du Canada, des sociétés publiques s'approvisionneront auprès de fournisseurs désignés et géreront entrepôts et boutiques. Les revenus générés devront être attribués à la recherche et à la prévention. Peut-être saura-t-on mieux combien de Canadiens usent du cannabis et comment la consommation peut glisser vers la polyaddiction. En effet, des décennies de prohibition n'ont pas permis d'établir des statistiques totalement fiables, non plus qu'elles n'ont empêché la lente banalisation du produit. Aussi, les responsables se sont-ils laissés tenter par une politique de petits pas. Autorisation d'usage médicinaux, puis expérimentation de la légalisation dans l'État du Colorado, enfin légalisation sur tout le territoire fédéral. Justin Trudeau parle d'une expérience sociale, économique, politique unique au monde et déterminante. Ses partisans en viennent même à vanter les vertus extraordinaires des métiers que la vente à ciel ouvert du cannabis va officialiser et l'expérience qu'elle va donner à de grandes sociétés internationales qui la feront ensuite valoir sur le marché. En réalité, il n'est pas du tout assuré que le marché noir, lui, disparaisse. La consommation risquant d'augmenter, la production pourra-t-elle suivre ? Et faut-il d'ailleurs souhaiter un effondrement de ce marché noir ? Il pourrait provoquer une reconversion des vendeurs vers des produits hautement dangereux. Les effets pervers de la légalisation sont difficiles à prévoir, comme le sont ceux de la prohibition. La prohibition, à quoi s'accroche la France ?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Alexandre Marchand, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Chez Perrin, l'impossible prohibition. Alors un livre gigantesque. Les policiers, les bureaucrates, les junkies, les hippies, les médecins, les pharmaciens avec leur armoire fermée. Et à propos d'armoire, vous avez travaillé beaucoup sur les archives.
Oui, tout à fait. L'ouvrage, en fait, à la base, est issu d'une thèse de doctorat, donc 6 ans de travail sur les archives, issues de différents ministères qui ont eu en charge un aspect de la politique antidrogue, la répression avec l'intérieur, la santé.
Et qui vous ont ouvert grand les bras ?
Il a fallu demander des dérogations, certaines n'ont pas été accordées, mais enfin quand même j'ai eu de quoi faire, de quoi travailler et de quoi examiner précisément un demi-siècle de politique anti-drogue en France.
Alors, juste un mot sur la classification. Il y a une classification des substances illicites, enfin il y en a plusieurs, mais on va prendre la situation telle qu'elle est à la fin des années 1960, la classification en vigueur.
Bien, le cannabis est une substance psychotrope, comme une autre. Les grandes classifications médicales, comme celle de Jean Delay et de Pierre de Nicker, classent le THC donc, comme une substance psychoactive. Et le cannabis est lui-même une drogue prohibée internationalement. Les conventions internationales sur les stupéfiants qui dressent la liste des substances interdites ont intégré le cannabis en 1926. Une substance interdite, même si l'interdiction est assez molle au niveau international comme au niveau national, puisque ce n'est pas un problème de santé majeur encore, jusqu'à la fin des années 60, où justement les choses se modifient quelque peu.
Les mots aussi varient, non ? Hashish, marijuana, cannabis ?
Oui, tout à fait. En France, on utilise plutôt le mot de cannabis, alors qu'aux États-Unis, on parle de marijuana davantage, puisque le problème s'est manifesté au début du XXe siècle avec les premières lois anti-marijuana dans les années 1910, où c'était un produit consommé par beaucoup d'immigrés mexicains. Et donc, on a mis en place une sorte de contrôle social par l'intermédiaire des stupéfiants. Les États-Unis sont d'ailleurs, certains États américains sont les premiers États à prohiber le cannabis dans les années 10.
De cannabis, ce sont d'abord les immigrés d'Afrique du Nord qui utilisent le cannabis.
Oui, alors, effectivement.
Et on en parle peu, du coup.
Oui, pense qu'en ce qui concerne la France, effectivement, il y a des cas de consommation de cannabis dans l'Afrique du Nord française. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que je disais, la prohibition est appliquée assez mollement, puisque depuis 1926, le cannabis est une substance interdite au niveau international, et pourtant ça n'empêche pas la régie des tabacs, au Maroc par exemple, ou en Tunisie, de vendre du kiff hein, dans les bureaux de tabac. Sous-entendu que c'est un usage uniquement pour les indigènes, entre guillemets, et que le colon n'est pas concerné. Donc on tolère, on vend, et dans les années 50, quand la prohibition commence un petit peu à se resserrer au niveau international, on voit les autorités françaises commencer à se poser des questions et à se dire on est en train de nous critiquer à l'ONU hein, pour le profit que nous tirons de ce fléau que nous avons laissé.
Les médias, parce que c'est bien beau les archives, mais enfin les médias, c'est plus excitant en la matière. C'est même parfois stupéfiant. Les médias s'intéressent à la question beaucoup à la fin des années 1960. Vous diriez presque que le cannabis enrichit les médias, plus encore que les trafiquants.
Oui, et les drogues en général, puisque dans la deuxième moitié de la décennie 1960, la contre-culture hein, se manifeste et inquiète, et fait vendre effectivement pas mal d'articles de journaux qui pointent du doigt ces hippies d'outre-Atlantique qui commencent à camper sur les berges de la Seine hein, en France, et qui consomment du cannabis, mais aussi du LSD, un peu d'héroïne un peu plus tard, et puis aussi beaucoup de médicaments, alors des amphétamines disponibles en pharmacie en vente libre, qui sont beaucoup utilisées et qui sont interdites.
Vous citez beaucoup Jean Co, par exemple, l'ancien secrétaire
dès 66, de Jean-Paul Sartre. Il monte au créneau en disant « Parents, méfiez-vous, le fléau arrive chez vous, la pieuvre étend ses tentacules des États-Unis vers la Suède, vers la France ». Jean Co dépeint dans ses articles des drogues parties au LSD qu'il estime tant horrible. Et puis le cannabis, évidemment.
C'est un fait divers qui intéresse beaucoup les médias, qui va inscrire à l'agenda politique la question, après une overdose d'une toute jeune coiffeuse sur la plage de Bandol dans le Var, et un grand débat parlementaire va s'ouvrir en 1970. Il arrive à Pierre Mazeaud d'écouter la marche de l'histoire. On peut peut-être lui rappeler les propos qu'il tenait, que vous épinglez.
Oui, Pierre Mazeaud ou Alain Perfit, hein, qui à l'époque faisait de la consommation de stupéfiants hein, le symbole d'une crise qui touchait la jeunesse. On disait que les parlementaires, lors des débats de 69, ont eu des phrases effectivement assez fortes en disant « on constate un réveil de la syphilis, mais c'est normal, les stupéfiants, le cannabis, détendent trop finalement et invitent à l'orgie sexuelle ». C'est Pierre Mazeaud effectivement qui tenait ses propos. Quant à Alain Perfit, il nous dit que la drogue, tout comme l'alcoolisme, l'homosexualité, la prostitution, ne sont que les diverses facettes d'un phénomène général de décadence des mœurs.
Et oui, alors vous décrivez un climat dramatisé, mais enfin Pierre Mazeaud fera observer que la loi en 70, elle a été votée à l'unanimité.
Oui, après effectivement plusieurs lectures, plusieurs navettes entre Assemblée et Sénat. Effectivement, l'idée de sauver la jeunesse du cancer qui l'a rongée, l'idée d'une loi de salut public, a quand même séduit la majorité des députés. Il faut dire qu'on était à ce moment-là, deux ans après mai 68, qui a beaucoup fait peur. Et on a un peu fait l'amalgame entre les jeunes de mai 68 et les drogues.
L'avocat qui parle, Maître Caballero, dont on retrouvera peut-être le nom plus tard, n'est pas vraiment un avocat de la loi de 70 qu'il décrit ainsi à sa manière.
La France, d'abord, a une législation les plus sévères d'Europe sur le cannabis, puisque la plantation de deux plants dans votre jardin s'est puni de 20 ans de réclusion criminelle devant des cours d'assises spéciales composées de 7 magistrats sans jurés, que la détention d'une barrette de shit s'est punie de 10 ans d'emprisonnement devant un tribunal correctionnel au titre de la détention, offre, cession, et que le fait de fumer un joint, l'usage de cannabis s'est puni d'un an d'emprisonnement. Donc vous voyez, un an, 10 ans, 20 ans, pour des faits aussi simples que fumer, détenir ou planter, c'est extraordinairement sévère. Eh bien, cela vient d'une diabolisation du cannabis, en lui imputant la stérilité, l'imbécilité, l'escalade vers les drogues dures, l'impuissance, toute une série de tares qui sont fausses, selon nous. Il y a vraiment une diabolisation de cette substance, que pourtant la France a vendue pendant 30 ans en Tunisie et au Maroc, avec des régies qui étaient exploitées par la Banque de Paris et des Pays-Bas, enfin tout à fait officielles. Néanmoins, depuis, disons, une dizaine d'années, on a réassisté à cette entreprise de diabolisation du cannabis dans les médias et en politique.
Cannabis en France, un documentaire de Philippe Lachambre. Ce qui est bien avec votre livre, Alexandre Marchand, La possible prohibition, Perrin, c'est qu'il s'exprime avec franchise. Et alors, d'un côté, vous observez avec ironie les débats parlementaires que vous nous avez décrits, et d'un autre, vous dites, cette loi, au fond, elle a peut-être eu raison, mais trop tôt.
Disons qu'en fait, on a raisonné beaucoup en 69-70 sur la base de fantasmes, sur une épidémie qui finalement n'avait pas vraiment lieu. Il y a eu certes quelques overdoses, mais c'était quand même en nombre limité. Le junkie n'avait pas tant que ça. Et donc effectivement, il y a eu un emballement médiatique, puis après un emballement politique qui a conduit effectivement au vote d'une loi très dure, alors que la véritable massification des usages de l'héroïne, elle ne survient qu'à peu près 10 ans après, et la massification de l'usage des drogues en général. Voilà. Mais il n'empêche que je ne dis pas que la loi est parfaite, c'est simplement qu'elle est précoce. Non, elle a été mal pensée, elle est contradictoire, en essayant d'articuler un volet répressif et un volet sanitaire qui se contredisent. Et puis aujourd'hui, elle est toujours une des lois les plus prohibitionnistes d'Europe, une des plus dures.
Jamais remis en question. Elle a mis en place une administration, comment dire, puissante, comment dire, unifiée.
Oui, enfin, il y a un secteur spécialisé qui se met en place en matière de soins, en matière de répression, mais au départ, chaque ministère fait ses choses dans son coin. Et finalement, l'unification de cette politique de la drogue, elle n'arrive que tardivement. La mission interministérielle, elle n'est créée qu'en 1982, et au début, ses moyens sont faméliques. Il faut attendre encore quelques années pour qu'elle monte en puissance, qu'elle ait des budgets et qu'elle puisse davantage faire de choses, même si les ministères, après, ne veulent pas toujours collaborer, et chacun défend son précaré, surtout les ministères régaliens comme l'intérieur.
Et les douanes collaborent-elles avec les polices et les polices avec les magistrats, et les médecins avec les magistrats, les pharmaciens, parce que les mérites de votre livre est de faire sa place à la pharmacie. Gainsbourg, une chanson des années 70.
À la brigade des stupes, je suis tombé sur des cops. Ils ont cherché mon spliff, ils ont trouvé mon paf. À la brigade des stupes, un ancien mataf qui est complètement louf, toujours à moitié paf. À la brigade des stupes, idée fixe la schnouf. Ah, je me suis dit ouf, j'ai pas cette sorte de staff. À la brigade des stupes, j'ai le moulin, je flippe. C'est pas mon genre de trip. J'me dis coco, fais gaffe.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Stéphane Marchand est notre invité qui publie Alexandre. L'impossible prohibition, un livre sur toutes les drogues, et on a saisi un fil, le fil du cannabis. Vous voyez, à force de m'entendre en écho, j'ai confondu votre prénom, Alexandre, Stéphane. Alors, honneur au grand Alexandre. Vous faites sa place dans la loi de 70 à la question du soin, parce qu'il n'y a pas que la brigade des stupes, il n'y a pas que toutes les administrations bureaucratiques de répression qui se mettent en place, il y a aussi autonomisation d'un secteur de soins.
Tout à fait, qui se met en place au début des années 70. Et donc, il y a une contrepartie judiciaire, c'est-à-dire que le principe de l'injonction thérapeutique, tel qu'il sera formulé après, permet effectivement à l'usager comparaissant devant un juge d'échapper aux poursuites judiciaires en acceptant de suivre une cure de soins, mais qui a pour but uniquement l'abstinence. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce système de soins se met en place sous l'autorité de Claude Olivenstein, qui est monsieur drogue dans les médias.
Pourquoi vous dites ça avec un sourire? Il était excellent quand il parlait de marmottant.
Mais c'est pas du tout un sourire ironique. Au contraire, un sourire qui rappelle la truculence du personnage. Mais donc, c'est le directeur de la clinique Marmottant qui ouvre ses portes au début des années 70. Et effectivement, il va imposer une grille de lecture de la toxicomanie qui est très portée sur la psychothérapie et la psychanalyse, disant qu'il faut aider évidemment le toxicomane en détresse et le sevrer et le mener vers les chemins de la guérison, mais en passant par l'abstinence. Et c'est comme ça que va fonctionner le système de soins en France pendant 20 ans.
Et non pas sur la norme de l'abstinence. Un produit de substitution,
voilà,
par exemple.
Pas de réduction des risques.
Camarmotant, on n'aime pas, a priori.
Non, la réduction des risques est expérimentale en 72. Il y a 2 centres qui proposent de la méthadone, 40 de places, et 20 ans après, il y a toujours 40 places. C'est-à-dire que le statut de la méthadone reste expérimental pendant 20 ans. Ce n'est pas la norme, et ça n'est débloqué que dans les années 90.
Mais restons aux années 70, enfin au milieu et à la fin des années 70, il y avait eu la manière perfide Mazot, il y a la manière Giscard qui dédramatise. Et le président de la République, Giscard d'Estaing, demande un rapport à Monique Pelletier.
Oui, tout à fait.
Important, en 78.
Oui, donc une commission qui porte le nom de Pelletier, Monique Pelletier qui dirige la commission, donc est rassemblée à la demande du président de la République et elle remet un rapport sur les problèmes de la toxicomanie en France, tout type d'usage et de consommation. Et on
et
se
sur
penche
l'herbe,
sur la question
cannabis,
du cannabis.
L'exemple des Pays-Bas à l'époque
voilà,
est très
y a
présent.
Les Pays-Bas qui ont mis en place une dépénalisation qui va très loin en 76, mais aussi l'Autriche et l'Italie ont dépénalisé l'usage personnel et la possession de petite quantité de stupéfiants. Et la commission Pelletier se pose la question de savoir est-ce qu'on n'imiterait pas aussi. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le président Carter a aussi des propos qui vont en ce sens. Certains États sont allés jusqu'à faire de la dépénalisation du cannabis. Donc c'est en débat. Et la commission donc, se pose la question. Mais finalement, va dire
ne
qu'on maintient la loi.
La...
Voilà, on ne modifiera pas la loi. Par contre, après en 78, Monique Pelletier, qui est secrétaire d'État auprès
80,
du garde des Sceaux, émet une circulaire à l'intention des magistrats pour dire que dans les cas d'usage simple de cannabis, eh bien, on se contentera d'un rappel à la loi, au jeune homme inculpé, ou, enfin,
admonestation, mise en garde,
voilà,
mais
et
pas application
pas de
sévère.
Judiciaire, donc pas l'année d'emprisonnement qui est potentiellement requise par la loi.
Alors, vous parlez de la banalisation lente pendant cette époque de réflexion, de tentative de légalisation avortée. Observons le monde des lycées. Moi, je me souviens, j'emmenais mes lycéens dans un bateau qui s'appelait le bel Espoir du père Jaouen. Et à la réflexion, je ne mesurais pas tellement les conséquences du contact que mes élèves pouvaient avoir avec l'équipage du père Jaouen qui était composé de toxicomanes.
Oui, tout à fait. En 74, la croisière Bel Espoir est organisée, financée, prise en charge par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Et Père Jaouen emmène chaque année quelques toxicomanes faire une croisière.
Il y a prescription en ce qui concerne les jeunes gens dont je vous parle. Et vous, dans vos lycées, puisque vous êtes professeur de lycée?
Oui.
Oui. Je ne dis pas où. Qu'est-ce que vous constatez?
On constate effectivement des cas de consommation, des cas de trafic aussi. Alors, pas dans le lycée dans lequel je suis cette année. S'ils m'écoutent, ils seront rassurés. Mais dans les établissements que j'ai pu fréquenter par le passé, j'ai vu effectivement les manifestations très concrètes de consommation et de deal aussi. Quand on commence à compter ces liasses de billets de 50 euros à l'intercours. Bon.
Alors, que faire, madame le proviseur?
Fabrice Gélin. Vous avez diffusé dans ce lycée des substances interdites et vous avez été pris en flagrant délit. Pire, vous avez fait cette pratique un commerce. C'est un acte trop grave pour être toléré.
Putain, elle va le massacrer, Fabrice.
Dans une communauté scolaire. Je prononce votre exclusion définitive du lycée Belgrand. Vous continuerez votre scolarité dans un autre établissement. Les dealers, dehors. C'est tout. Merci.
Oui, mais... Madame le proviseur, c'est un téléfilm d'Alain Bonneau. Est-ce qu'elle mesure ce phénomène nouveau qui est celui de l'usager revendeur? Il peut y avoir d'excellents élèves de terminale qui, néanmoins, un peu tôt le matin et surtout très tard le soir.
Moi, je vends la drogue. Le vendeur, le charbonneur. Tôt le matin... vers les coups de 10 heures et le soir vers les coups de 1 heure. Quand tu as la sacoche, ça peut monter jusqu'à au-delà de 200 euros par jour. Moi, j'ai pas arrêté l'école, je suis pas comme certains. Ça veut dire moi, je commence vers les coups de 6 heures pour finir jusqu'à 1 heure du matin. Quand je finis l'école, ça veut dire je vais à l'école plus je fais de l'argent. C'est pas beau? Je suis en terminale. Je suis là que le soir, je gagne 150 euros le soir. Je m'achète un peu d'habits et j'ai de quoi vivre toute la journée. Mais déjeuner, mes pains au chocolat, mes petits trucs, tranquille. Personnellement, j'ai commencé parce que quand je voyais autour de moi, je voyais des gens bien zappés. Je me disais comment ça se fait qu'ils ont ça. Après, j'ai vu que c'était facile d'avoir ça et j'ai suivi leur chemin. J'ai commencé vers 14 ans, là j'en ai 17. J'espère arrêter bientôt, plus vite. Hein. Quand j'atteins mon but, c'est-à-dire un bon sommet d'argent, je vais essayer de construire ma vie. Je trouve un travail et j'ai une copine, moi, ça fait un bon moment aussi.
Et puis sur Terre, France Culture, un témoignage venu de Marseille. Stéphane Marchand, aucune loi ne peut prévoir Alexandre Marchand. J'ai de la chance de ne pas vous appeler Mimi. Aucune loi ne peut prévoir les adaptations, les fluctuations des usages,
oui.
des figures du commerce.
Ah, effectivement, la loi court toujours après les usages, comme le chat après la souris. Quand on constate qu'on consomme, par exemple, des médicaments qu'il faut interdire, ou là, effectivement, dans le cas d'usage de drogue de cannabis, effectivement, là, on pointe du doigt la figure de la professionnalisation de l'usager revendeur et même du revendeur tout court, puisqu'ici je ne pense pas que ce jeune consomme lui-même, enfin je ne sais pas, en tout cas il ne nous le dit pas, hein, mais on voit qu'effectivement il y a une sourde massification des usages et donc du trafic, puisque s'il y a demande, il y a offre aussi qui doit répondre à cette demande, et on a vu dans les années 80 et 90 consommation de cannabis se massifier et trafic de cannabis et
parce que liaison entre trafic et petite criminalité, oui. Dans les cartons du ministère de la Justice, prenons cet exemple de recherche d'archives, une enquête dans les du juge Leroy.
Oui, tout à fait.
Dans quelles années
et il constate qu'effectivement, de plus en plus, la consommation, alors là, de cannabis, mais aussi d'héroïne, donne naissance à des phénomènes de petite délinquance. Hein, quand l'usager-vendeur a besoin d'argent, qui va se mettre à faire des cambriolages, des vols d'autoradio, de sac à main, pour avoir un peu de liquide, pour pouvoir s'acheter une dose de drogue, d'héroïne ou de cannabis, hein, dont il revendra une partie aussi à des proches. C'est comme ça que se met en place petit à petit un trafic d'usager-vendeur et une entrée dans la petite délinquance. Hein, alors que quelques années auparavant, on ne faisait pas forcément le lien entre consommation de stupéfiants et petite délinquance. Ça, c'est au début des années 80 que certains magistrats sur le terrain font ce constat-là et font remonter ainsi leur rapport à la chancellerie. Hein, alors dans le cas évidemment du juge Leroy, on a un juge à poigne qui voudrait qu'on durcisse la législation, en tout cas qu'on applique la loi de manière plus sévère, et en disant notamment que dans le cas d'un usager revendeur, c'est avant tout un revendeur avant d'être un usager.
Donc, dans les années 80-90, vous dites, le discours de répression, l'interdit de la loi, le modèle des soins, tout reste inchangé, et s'il y a une accentuation, c'est plutôt dans le sens de la répression, y compris pendant les gouvernements socialistes des années 1980.
Oui. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on ne sait pas quoi faire avec cette figure de l'usager-revendeur, hein, puisque la loi de 70 est un peu binaire. Il dit que pour l'usager, normalement, c'est les soins qui lui sont destinés s'il accepte l'injonction thérapeutique, et pour le trafiquant, c'est la répression. Mais alors, l'usager-revendeur, qui est un peu des deux, de quel côté la balance va-t-elle pencher? Et dès les années 80, on voit les circulaires du ministère de la Justice dire que un usager-revendeur est avant tout un revendeur, avant d'être un usager. Donc effectivement, la loi va se mettre à ce moment-là à être appliquée dans un sens beaucoup plus répressif.
La prohibition, vous parlez avec franchise, se montre impuissante à agir sur l'offre. Elle n'est pas entre les mains d'une mafia à commandement centralisé. Elle est régie par des groupes multiples qui s'agrègent en fonction des opportunités. C'est la théorie du ballon que vous illustrez.
Voilà,
c'est-à-dire et
qu'on illustre bien par exemple avec la French Connection. Bon, là c'est dans le cas du marché clandestin de l'héroïne. Bon, déjà la French Connection n'était pas une mafia unique et pyramidale, c'était un assemblage assez hétéroclite, plein de petits groupes criminels.
On tape dans le ballon.
Et puis alors après, effectivement, on tape dans le ballon, il va ailleurs, et plutôt encore qu'un ballon, c'est comme une fourmilière dans laquelle on donne un coup de pied, et après les fourmis vont ailleurs. Effectivement, quand la répression s'abat quelque part, vous arrivez à arrêter quelques cellules trafiquantes, mais les autres vont continuer leur business ailleurs. Et vous dilatez finalement le réseau criminel.
Alors vous parlez de la France longuement dans l'impossible prohibition, dont je recommande la lecture, c'est aux éditions Perrin. Mais si vous voulez, on va respirer un autre air au Canada, où à partir de ce 17 octobre, le cannabis est légalisé, s'ouvre de nouvelles perspectives. Par exemple, dans les lycées, on appelle ça au Québec les cégeps.
Voici 10 futurs techniciens du cannabis. Ils sont en train de suivre un programme en technique de culture du cannabis donné au collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Moncton. Ils apprennent comment cultiver la plante, quels sont ses besoins en lumière, etc. Un programme lancé en décembre 2017 par le collège.
C'est une nouvelle industrie au Nouveau-Brunswick. C'est une belle promesse de bons emplois au Canada.
Les étudiants sont formidables. Je me réjouis de faire partie de ce programme en les voyant si enthousiastes. Ils vont avoir un bel avenir avec des possibilités illimitées.
Possibilités illimitées chez les fournisseurs, avec les serres qu'il va falloir construire, les boîtes en plastique où on va faire vieillir comme du vin dans des fûts en chêne l'herbe. Et puis, aussi des perspectives de développement international, parce que quand on apprend une expérience comme ça dans un seul pays, on peut peut-être utiliser le capital acquis ailleurs. Alors voilà une autre vision.
Oui, tout à fait. Effectivement, une expérience à suivre.
Je vois un sourire ironique.
Ah, non. Pas d'ironie. Oui, effectivement, c'est le deuxième pays au monde à légaliser le cannabis après l'Uruguay. Et puis, certains États américains l'ont fait également, même si c'est en contradiction encore avec l'interdit fédéral. Et ce sont des expériences, effectivement, qu'on va pouvoir étudier avec intérêt dans les années à venir pour voir si ça marche. Alors, ce qui est intéressant, en plus, dans le cas du Canada, c'est que chaque province, finalement, va appliquer la loi à sa manière. Donc, dans les uns, ce sera une vente contrôlée par le service public, hein, la Société des alcools, qui va avoir une filiale dédiée au Canada. Pour d'autres, c'est le cas du Québec par exemple, pour l'Ontario ce sera par contre un marché privé, hein, les entreprises qui signeront des conventions avec l'État qui vont cultiver, produire ce cannabis.
Vous parlez des États qui peuvent avoir des attitudes différentes, mais il y a aussi les municipalités, parce que il y a au Québec une trentaine de municipalités qui ont adopté des règlements interdisant de consommer du cannabis partout sur l'espace public.
Voilà, les municipalités.
Donc il va y avoir 1000 laboratoires, en fait.
Tout à fait, 1000 laboratoires. Et puis justement, le cas du Québec. Québec était la seule province du Canada à être opposée, au niveau des sondages, on le voyait, à la mesure de légalisation du cannabis. Mais effectivement, ce sont des expériences desquelles on pourra tirer des leçons. Déjà, on peut le faire avec certains États américains comme le Colorado et l'État de Washington. Là, c'est depuis 2014 que le cannabis a été légalisé à des fins récréatives. Parce qu'il y a aussi la légalisation enfin thérapeutique, ça c'est encore autre chose. Pour l'instant, le résultat est plutôt en demi-teinte, puisque le marché clandestin n'est pas mort. Hein. Le cannabis légal se vend beaucoup plus cher, donc le marché clandestin ne s'est pas tari du tout. On a même un système de ségrégation sociale qui se met en place, puisque les classes moyennes ou aisées achètent leur cannabis maintenant aux boutiques légales, aux pot shops, mais par contre, les pauvres polyaddicts d'ailleurs, par ailleurs, continue de s'approvisionner auprès du dealer.
Donc beaucoup de contradictions révélées par cette question du cannabis. Par exemple, au Canada, il y a une politique anti-fumeur de tabac défendue par des groupes de pression qui continuent. Et par contre, les groupes de pression qui veulent la libéralisation et qui sont constitués de fumeurs d'herbe se trouvent avantagés. Alors qu'on prenne qui pourra. Merci à vous, Stéphane Alexandre Marchand.
Ah, c'est Alexandre, Albert Lebrun.
Non, Jean. Ah, c'est pas mal dit, c'est pas mal trouvé. Stéphane Ronxin, il s'appelle aussi Stéphane, notre technicien. Bonjour, j'espère que... C'est parce qu'il y a beaucoup de Stéphane sur le plateau que je me trompe. L'émission a été préparée par Eline Canegulesco, Frédéric Martin et Franck Olivard.